Octave Uzane, L'amour au champ. C'est au grand pouls de la nature que l'amour bat au champ. Ici, point de névrose cérébrale, pas de psychologie. Le chercheur le plus micrographe aurait peine à découvrir des cas intéressants pour l'étude pathologique du cœur et de l'esprit. L'amour éclos sous le soleil, avec un étourdissement de sève qui fermente et monte dans l'animalité humaine. Les sens sont le plus souvent surpris avant que le cœur soit atteint. La création dicte normalement ses lois. Mais l'âme, cet astre interne qui fait répandre en nous sa nappe de lumière chaude et bienfaisante, l'âme qui drape de pourpre et d'azur nos illusions juvéniles et sème à profusion les fleurs rares, sitôt fanées sur l'autel de notre bonheur. L'âme, cette essence désaffinée, l'âme, cet officiant divin qui chante en tierce dans nos ivresses un tédéum au grand tout, l'âme apparaît peu dans le rut brutal et fugitif des accointements champêtres. L'adolescence dégauchit vite, sans qu'il ressente l'époque de l'abus, dans la sauvagerie des champs. Ses yeux ont tout appris à lire et interpréter les lois de la nature. Il connaît, avant l'âge de formation, l'amour des êtres, ou mieux, la relation des sexes. Tout jeune est, au retour de l'école, son panier au bras, le long des haies vives, dans le calme troublant du crépuscule, il a vu le paysan cupide, ramenant satisfait de la ferme voisine, sa vache efflanquée, qui, le matin même, demandait le taureau, et maintenant, calme, fait résonner mollement son sabot sur les cailloux du chemin. Il a surpris les élans amoureux des oiseaux se poursuivant dans les taillis, et son regard malin, perspicace et furteur, ce regard développé à l'extrême, a tout compris, tout supputé, dans sa logique impitoyable, dont rien n'est venu fausser la droiture et le naturel développement. Près des fillettes, il a garçonné dans l'ignorance des décences convenues et des pudeurs inoculées par la délicatesse des mères. Aussi, le jeune gars montre-t-il moins de curiosité et ayant moins de mystère à pénétrer, car l'esprit de l'enfant aime despotiquement à connaître la raison des choses et à déchirer les voiles que l'on y oppose. Tout parle à ses sens, car tout germe, tout fermente, tout pousse, tout se développe autour de lui. Rien ne murmure dans son cœur laissé en jachère, sans culture sentimentale et sans idéalité. Entre le père qui entend qu'on travaille ferme et rudois, criant « Garçon, gamin, va guérir les vaches !» et la mère accablée de travail, qui à la fois écume la marmite pendue à la crémaillère, chasse en jurant les chiens de la chambre, gourmand des mouches les mioches, relève la litière des bœufs, gave les dindons, jette l'avoine aux poules, écrème les pots de laiterie, nettoie la bague de la bouche du porc, cet asiatique de basse-cour. Entre ces deux êtres courbés sur la terre, plus myopes sur la vie que les sauvages du centre de l'Afrique, le pauvre enfant ne connaît point ses refuges caressants, ces gîtes douillets et reposants, où des parents épient anxieusement l'éveil des idées et la poussée morale de leur fils, mesure de ses degrés de croissance. À 7 ans, il a déjà l'aspect fatigué, vieillot d'un petit homme, avec ses culottes rapiécées, montant au-dessus des hanches et retenu par des bretelles minuscules, les mains dans les poches, la gueule ouverte, l'air malicieux, il assiste à toutes les opérations agricoles. Déjà dur à la fatigue et habitué aux privations, il suivra le père à la charrue, marchant dans le sillon avec ses sabots ou ses souliers ferrés, glissant sur les mottes de terre, se relevant en riant, lançant au ciel tous les blasphèmes qu'il a entendus proférer, tous les mots orduriers qui, dans sa bouche enfantine, font rire les gars le soir à la veillée. Déjà aussi a-t-il toutes les perversités précoces, la rage de la destruction, une sorte d'instinct de chat cruel. Son œil perçant a compté tous les nids des environs, arbre par arbre, buisson par buisson. Il les connaît, il les guigne, et partout il grimpe ou se hisse, plongeant ses petites mains meurtrières et impitoyables dans les embranchements où l'oiseau a maçonné des brindilles et tapissé de duvet le lit d'une famille nouvelle. Là où ce singe paysanesque a passé, règne la dévastation. Sous ce crâne bombé, allongé en noix de coco, résistant au choc des chutes, non moins qu'aux idées de charité, de bienveillance, de tendresse et de protection des faibles, on ne peut faire pénétrer l'amour de l'oiseau et de sa couvée, et la conception de pertes irréparables que la maternité pleure au sein de la nature. Rossignol, alouette, rouge-gorge, bouvreuil, bergeronnette, qui planaient dans l'harmonie vivante des bois et des prairies, hirondelles familières qui logeaient sous notre toit, chardonnerets, pinsons, loriots, linettes et mésangères, n'êtes-vous pas cependant les plus divins chantres de l'amour au chant? Et les anciens ne disent-ils pas « Tout vient de l'œuf, c'est le berceau du monde ». La fillette, plus encore peut-être que le petit gars, a été sevrée d'affection. Saluée dès son entrée dans la vie par cette imprécation, une pisseuse, quel gueux de sort! Elle pousse comme elle peut, sans qu'on y prenne garde, sauvagement. On la voit, la pauvrette, ficelée comme un paquet, presque sordide et morveuse, sur le seuil de la chaumière, manœuvrant dans ses petites pattes humides, noires et potelées, le premier ustensile venu qu'elle brandit en hochet, bégayant au soleil de ces mots inarticulés d'enfants dont on ne sait pas faire éclore les paroles une à une, ou vautrer dans la poussière, se livrant à des naïves ébats dans les pattes d'un jeune chien, doux compagnon d'enfance, qui la bouscule délicatement, la lèche, aboie, s'éloigne en frôlant, en folâtrant, revient joyeux et subit les caresses de ses menottes tremblantes et mal assurées, qui le saisissent au museau, aux grilles, aux oreilles, au cou, tandis que le bébé grogne presque tendrement, montrant ses petites cuisses à l'air, son visage renversé, rieur, ses lèvres roses couvertes d'une bave de plaisir. C'est à peine si la mère la prend, l'emporte, la berce et l'embrasse. Le plus souvent, elle dort dans le haut lit de duvet, sous les dredons paternels, écrasée entre les deux corps qui l'ont conçu, mettant son sommeil calme de petit chat au milieu des ronronnements sonores des époux que le labeur du jour a paralysé de fatigue. À l'aurore, elle repose seule, perdue dans la plume, tandis que la basse-cour s'éveille, que le père en sabots casse une croûte et que la mère déjà vêtue coiffé de sa barbotte, va et vient, agitant dans un lavage hâtif tous les vases de fer blanc de l'hôpital, où le lait de la vache va tomber tout à l'heure avec un tambourinement saccadé. Le soleil n'est pas haut à l'horizon, qui déjà on la fagote plutôt qu'on ne l'habille, précipitamment, à coups de tape et sans ménagement. Puis, à peine nourrie de sa pâtée, elle est campée sur un siège. Tiens-toi là, t'entends, et ne bouge pas. Parfois, au milieu de la journée, en dépit de la chaleur, du froid et de la pluie, soit que la bourgeoise aille à l'herbe, au fanage, à la semaille ou au repiquage, soit qu'elle se rende au ruisseau ou à la mare voisine pour laper à la volée le linge de son rouillot. Sa gosse est sans façon, hissée dans la hotte, comme les enfants de Croquetel. Elle est habillée le long des chemins, elle est ballottée, à moitié endormie, n'osant crier de peur de taloche, puis enfin déposée à l'endroit du travail, sous un saule crevassé, comme le talus d'un fossé, au-dessus d'une botte de paille, la petiote abandonnée, glapit de vagues et plaintifs mugissements. Elle pousse, gaillarde et drue cependant, bien que gauche, timide et farouche. Et peu à peu, vers la 12e année, elle se décrysalide, s'élance droite et déjà s'arrondit un brin dans son corsage d'indienne. Les cheveux de chanvre flottent sur un cou brun. Ses yeux, enfoncés sous un front proéminent, semblent moins épeurés, moins effarés, moins boueurs. Ils osent luire maintenant, s'avancer au premier plan, l'éclatant de leur feu, leur arcade sourcière. Son instinct s'éveille très vite, trop vite peut-être, car elle devient un embarras à la maison. On lui met alors un panier sous le bras, on la munit de tartines beurrées, de noisettes, de cahiers de classe, et l'on envoie le petit chaperon rouge, se dégourdir à l'école du bourg le plus proche, en compagnie de jeunes loups qui la croqueront un jour. Aussitôt, cette chafouine morveuse, si craintive la veille, devient garçonnière, turbulente, espiègle et perverse comme un diable. Elle s'affole dans les rondes des villages, parmi les ritournelles chantées, dans la griserie tournoyante des enchaînements de gamins. Pimpante et plus coquette avec ses boutards, elle s'échappe le soir, avec grand bruit, de l'école au milieu d'une nuée de marmailles déchaînées, et prend plaisir au retour à taquiner et à bousculer ses compagnons de route, les fatiguant par des courses à travers les champs, grimpant aux arbres, en jouant à chat perché, et pirouettant souvent gaiement, cul par-dessus tête, sans songer à baisser sa cotte. Très savante d'ailleurs, en mots expressifs, en gestes libres, parfois même très froidement vicieuse, avec la naïve ignorance de son vice. De retour sous le chaume, ses cahiers mis en place, ses parents la dépêchent aussitôt au bétail épars dans le pâturage pour les ramener à l'étable. Une longue baguette aux mains, la fillette court essoufflée dans la prairie, avec une allure basse. cinglant ferme les petits aux jarrets, sautant derrière les génisses bondissantes, appelant le chien diligent qui, la langue tendue, guette ses ordres, prêt à se lancer si les bêtes s'écartaient, et criant d'une voix âpre et forte « Tiens, tiens, noireau, ramène-la, va, mords-la, la garce, vite, ramène, mords-la, ici, ici !» Et tandis que brave molosse, jappe, se précipite et donne de la gueule, elle vole à la rescousse et tape dur sur ses échines des Normandes et des Carolaises qui secouent la tête et vont de l'avant. Elle franchit enfin les bouchures, marchant à l'intérieur de ses bêtes, dont la sonnaille secoue le pas lourd et les aboutissements le long du chemin, et elle s'en revient, alors mélancolique, de l'Angélus, dans le crépuscule tombant, ébouriffé, le visage rouge, perlé de sueur, déchirant de ses dents superbes un lambeau de pain de seigle, mis en réserve dans son tablier. C'est au grand pouls de la nature que l'amour bat au champ. À 12 ou 15 ans, le gars abandonne l'école, aide aux travaux, remplace le père à la charrue, fait le binage des vignes, sert à la fenaison, et de l'aube au soleil couché, durcit ses mains à la fatigue. L'âge de la puberté ne l'a point troublé, c'est à peine si la période de mue a eu prise sur lui. Depuis longtemps, il ne lui reste rien à connaître des sensations amoureuses. Aux heures de repos, pendant la méridienne dans la grange, ou la nuit, sur le lit dressé dans l'écurie, à la lueur d'une lanterne fumeuse, une servante messaline effrontée ou quelque plantureuse fille de journée l'a cyniquement initiée au mystère de la nature, sans qu'il le désirât ou s'en défendît, le tapotant, le prenant de force, faisant éclore avant le temps ses démonstrations d'homme. Il a conté cela le soir aux parents, assemblés autour de la table pour le souper. La mère, par tempérament jalouse de ses mâles, a grogné entre ses dents « Oh, la gueuse, la rien du tout !» Et le père, patriarche incontesté, a levé la tête à cette exclamation et tout en coupant lentement la miche de pain, s'est écrié « Tais-toi, la femme, pas de jérémiade. Il n'y a rien de cassé, bien sûr. Il est bon qu'un enfant connaisse ce qu'il doit apprendre tôt ou tard. Quand il sera en âge d'aller lui-même à la femelle, il saura au moins comment s'y prendre. Oh, moi, j'y vois point grand dommage. Aller à la femelle. » Oui, là est le terme consacré pour ces rablaisiens sans métaphore. Aller à la femelle est un honneur. On boit à ses premières virilités. Il y a toujours assez faux, le gars. Ses 17 ans ne sont pas révolus que chaque dimanche, après la soupe, il se rend à la danse du village, vêtu d'une blouse neuve flottante, aux plis bleus, laminée par le fer, avec les soutaches au col et aux épaules, culotté d'un pantalon de drap gris, chaussé de gros souliers bien cirés, la casquette de soie posée sur le côté de sa chevelure luisante de pommade, il part avec son petit écu dans la poche, plus fier qu'un compagnon qui fait son tour de France, et il se dandine, une fleurette aux dents, en chantonnant s'il est seul, quelques complaintes, traînardes, comme sa démarche. Et Brahman, s'il est en compagnie, des chansons grossières et farceuses, apprises au café, à la ville, lors de la dernière fête. L'aubergiste du hameau dirige d'ordinaire la salle de bal, sorte de grange peinte à la chaux vive, avec un banc de bois de chêne alentour. Sur une estrade faite de fûts dressés et recouverts de planches, un pistolon et un violon jouent désespérément. La salle se peuple lentement. Un à un, timidement, traînant la jambe comme s'il portait une charge, les bras ballants, gênés, gauche et malheureux d'apparence, les blousards rougeaux arrivent. Leurs souliers ferrés font sonner creux les larges lames d'un parquet primitif. Les filles et les femmes retardent un peu. Et elles apparaissent cependant avec cette allure craintive, empesée, presque ridicule de la paysanne en goguette en toilette qui semble savoir où dissimuler ses mains rouges marbrées d'engelures. Les robes de mauvais goût aux plis disgracieux, les lourdes bottines, les cravates au ton criard écru, les cheveux plaqués aux tempes, enlaidissent ces superbes filles, si sculpturalement campées au travail dans le grand décor des champs au cours de la semaine. Et ici, parées comme des châsses, elles montrent la déformation de leur corps ratatinés et engoncés dans de pauvres jupes ou des corsages mal taillés qui aplatissent leur gorge. Orchestre et toilette, dans ces bals, continuent à faire hurler l'harmonie. En place pour le quadrille. À peine si l'on se chuchote quelques mots, le plaisir est muet, cérémonieux, attristant, pour qui regarde. Cela a quelque chose d'une noce de domestique. Est-il rien de plus navrant? Le piston et le violon, qui font mauvais ménage, lancent leurs notes au loin dans la nuit profonde, et danseurs et danseuses inflexibles vont, viennent, passent, le visage sérieux, consternés, jouissant d'une liesse intime, bien que peu débordante. Dans les entr'actes, on se traîne à l'abreuvoir et on se remue davantage en buvant la bonne bière de Mars, le cidre ou la limonade qui saute au grand plaisir des filles. Les amoureux ne se mettent pas pour l'or, en fraises inutiles de parole. Ils se tiennent la main dans la main et se regardent avec des yeux qui s'allument et s'approfondissent dans la bestialité plutôt qu'ils ne se causent. Il faut voir aussi dans ces œillades la mélancolie inconsciente de regards qui désirent et se craignent, qui se veulent et se redoutent de s'exprimer, et aussi la gaucherie tremblante des amours qui voudraient se peindre et qui cherchent en vain la façon de se préciser. Hop, le cuivre a retenti. Debout les femmes. Le ménétrier annonce la polka. Quelquefois la valse. On paye chaque tour de bal. Et l'on dansonne dans la guinguette, bien avant dans la nuit, avec cette même réserve, attendant l'heure bénie du retour, l'heure des amours démonstratives, où le jeune gars sera ce rameneux, où la jeune fille ravira son premier calvaire d'amour et tombera lourdement comme une motte au revers des fossés. Le rameneux, l'heureux rameneux dans la nuit épaisse, sous le ciel étoilé comme un manteau de magicien, sans sourdre en lui l'éloquence des désirs brutaux. Il a enlacé la fillette à l'épaule près du cou, la pressant durement, et tous deux marchent lentement, en parlant bas, si bas que rien ne détruit la symphonie nocturne, le chant des grillons et des insectes dans l'herbe, et le coassement régulier des grenouilles qui montent berceurs dans l'ombre. Dans la plaine, la fraîcheur dégage les senteurs vivifiantes de la verdure, et les arbres sont des formes indécises qui font que les femmes se serrent contre le mâle. Le galant rameneux approche tout à coup son visage contre celui de sa compagne. Il a trouvé maintenant ses pipeaux rustiques et il en joue de son mieux, bien que sobrement. Il l'embrasse, il la presse, sans qu'elle veuille se défendre. Il décide et il déclare la trouver la plus jante, la plus avenante du village, la plus laborieuse, et a toujours pensé qu'elle ferait une jolie petite femme. Elle répond à peine, très émue, pour sûr qu'aussi elle le trouve un beau garçon, dur à la besogne et dont le père à la maison parle toujours avec éloge. Alors ils causent d'avenir, très absorbés par leurs projets sincères en ce moment, et à la lueur de l'espérance qui brille à ses yeux, la pauvrette ne voit pas les embûches sous ses pieds. Ils se sont arrêtés et assis sur un talus comme entre une haie. Ici, le fier mâle se démasque et la mange de baisers. Oh, il ne supplie pas, il attaque. Il n'incite pas son ami sous ses baisers. Il la renverse, il la bouscule et se cabre à ses côtés. Elle, déjà savante sur les conséquences, le conjure de prendre garde. Elle se dit qu'après tout, il faut bien céder, et puis qu'importe, puisque peut-être on se mariera. C'est au grand pouls de la nature que la morture bat au champ. Peu à peu, la fillette s'aguerrit, et les rameneux se succèdent à son cou, le long des sentiers, au retour des danses. Elle ne songe même plus à repousser les assauts. Elle glisse à volonté, sans essayer de se retenir, étouffant ses rires, ses soupirs et ses cris dans la nuit. Elle a toutes les lassitudes, toutes les passivités de la femelle, parfois aussi l'indifférence de la poule maîtrisée par le coq. Elle se relève un peu chiffonnée, rouge et muette, décontenancée, sans dessus-dessous, comme un coup de main à ses côtes, pleine de poussière, d'herbes sèches, de petits chardons. Et tous deux, silencieux, confus, reprennent leur marche avec plus d'accablement, près des grands peupliers qui bruissent agités par le vent, en côtoyant les ruisseaux qui traînent leurs murmures en glouglou et leurs sursurations sur les rochers. Les frais ou la hulotte lancent leurs cris dans les ténèbres. Au loin, les chiens des métairies jappent longuement et se répondent de la hauteur des collines aux profondeurs des vallées. On entend, tous les 10 ou 15 pas, le bruit sec de leurs baisers et quelques éclats de voix criardes de la fille lutinée. « Oh, finis donc, oh chien d'homme !» Ou bien « Mais t'as pas fini tes bêtises !» Ils sont ainsi, maintenant, de nouveau, arrachant par maintien des brindilles d'herbe, elle, l'œil égaré et distrait, écoutant avec émoi, si personne ne vient au loin dans le chemin. Mais lui, la happe soudain, convulsivement aux lèvres, avec des salivations de dogue qui mâle une femelle, et la renverse dans ses crispations pour la seconde fois. Oh, ce n'est plus le Colin des opérations coniques, le Jeanlot des romances à sous-entendu polisson. C'est l'étalon dans la libre campagne qui, sans ménagement, se rue aveuglément à la chair. Pour la pauvresse, c'est le bel âge que cet âge des amours brutales, puissantes, farouches et des rudes subies. Si le père a du bien, elle se marie un beau matin avec l'un de ses amoureux qui a jugé de sa robustesse des services qu'elle lui pourra rendre et qu'il épouse en finot pour avoir un ouvrier solide à attendre à sa vie. Et à dater de ce jour, tout est fini pour elle. Courbée par le travail, tirant sur le trait comme un cheval aveugle, déformée par les couches, elle n'a plus de tête ni de répit. Les mômes arrivent qu'il faut nourrir et élever comme on peut. Oh, ce n'est plus la femme riche et appétissante, la rose donzelle déliée de la veille, qu'on rencontrait pimpante sous la cornette blanche à la messe du village. C'est l'esclave, durcie au soleil, amaigrie, voûtée, ravagée, bientôt sans forme féminine, plus maigre qu'un poulet de table d'hôte. Elle s'écrase du soir au matin sous les gros labeurs, grattant la terre, la tête en bas, portant la lourde hotte chargée d'herbage, traînant sa perpétuelle grossesse dans tous les travaux rustiques, par la pluie, le froid, le vent ou la chaleur, sans se plaindre, sans geindre, tout attentive aux ordres, aux duretés et aux exigences de son homme, du maître devant qui seule elle tremble. Plus de plaisir, plus de bal, plus de dimanche pour elle. Lui, le rustaud, fidèle au jour du Seigneur, se fait la barbe sur le midi, met la chemise blanche apprêtée par les soins de la mère, sort de l'armoire ses hardes neuves, puise de l'argent dans le coin des réserves, et les mains dans ses poches, comme un bourgeois, frais, dispos, heureux de vivre, se rend au cabaret du village où il fume, boit sans mesure, joue avec opiniâtreté, bavarde sans fin et rigole, ou se chamaille avec ses amis. Il rentre tard dans la nuit, un peu trébuchant, le verbe haut, rond comme une pomme, le gilet plein, à la Marianne dans l'œil, avec toute l'importance d'un homme bu. Les femmes, oh, cela pourrait attendre, déclare-t-il. Et bien que la bourgeoise ne souffle mot, Il ajoute pour prévenir les reproches « pas de larmes, hein, pas de cris, où je cogne ?» L'amour est bien parti, la malheureuse est bien domptée. Dans son esprit écourté, économe, en progain, peu lui importe que son homme soit ivre, qu'il entre tard, qu'il l'abandonne à sa solitude, à ses travaux. C'est son sort de femme. Mais, ménagère avant tout, elle s'inquiète de l'argent dépensé. Et le lendemain de cette goguenne, avant que le soleil soit levé, pendant que le rustre fait entendre ses hoquets d'ivrogne endormi, ses rauques ronflements de gorge sèche, elle se glisse furtivement à bas du lit et, sans lumière, à tâtons, d'un pas furtif, s'empresse de regarder cupidement ce qu'il peut bien rester dans sa bourse de la menue monnaie emportée la veille après une si copieuse ribote. C'est au grand pouls de la nature que l'amour bat au champ. Quelquefois, il faut le dire, afin d'apporter un peu de couleur parmi tant de réalités ternes, on constate des amours simples et touchantes, des églogues poétiques, d'une sentimentalité vive, des passions d'une sincérité sublime, et dont il faut voir la cause dans des penchants invincibles contrariés par l'avarice des parents. Alors, dans ces âmes sans culture, sans ambition, sans désir élevé, il se développe tout à coup un étonnant machiavélisme, une extrême ingéniosité, une filauderie merveilleuse et patiente pour tourner adroitement tous les obstacles. Faut-il un exemple ? Voici un argument de roman dans sa naïveté presque vulgaire. Pierre aime Jeannette, la meunière du Bois Joli, là-bas, derrière la colline, à 10 kilomètres au loin. Jeannette est éprise de Pierre. Pauvre Hugues, enfant de l'hospice, maintenant valet de ferme aux Ormeaux. Ils se veulent et ont juré tendrement un soir, dans l'émotion d'un premier aveu, de fusionner leur vie quoi qu'il advienne. Le meunier a gourmandé sa fille, jour où lui a parlé de Pierre. « Oh, l'enfant trouvé, impropre à rien, un méchant bouvier, mais de quoi s'avise-t-elle ? Jamais que l'on prenne bonne note, il entendra parler d'un pareil chenapan. » Pierre et Jeannette se voient cependant. Lui quitte au soir la ferme endormie et retrouve du courage en songeant sur la route que, à 2 lieues près de là, des vannes où chante l'eau du rue, son amoureux guette sa venue dans la nuit. Il arrive presque courant, essoufflé, et de loin en loin, chuinte en signe de ralliement, la petite franchit alors bravement sa fenêtre et saute au-delà des hauts du rail, apaisant par ses caresses les chiens de garde prêts à aboyer. Les amoureux se retrouvent et, sans parler, font communiquer et communier leur passion. Ils sont derrière les buissons, se conter leurs peines et nourrir leurs espoirs. Leur amour s'échauffe, se surexcite, grandit. Jeannette refuse tous les prétendus, essuie les farouches colères du père, les supplications de la mère, tant que dit que les années passent en attisant leur flamme par l'attente. Toutes les ruses, il les emploie pour se voir et sentir leur cœur battre à l'unisson, jour ou nuit, selon les occasions. Le soleil leur est doux. Ils aiment à sentir neiger les aubépines sur leur tête et à baiser les coffres corolles roses des églantines. Et derrière les meubles de foin ou dans les blés jaunissants, parmi les coquelicots et les bluets, se dérobent des baisers. Partout, l'amour les porte et les fait radieux. Ils chantent en se tenant la taille des rondes naïves. Je voudrais bien m'y marier, mais j'ai trop peur de m'y tromper. J'en veux rester fillette, la vendrette durcie. J'en veux rester fillette, la verdurette du bois. Lui, de sa forte voix de vacher qui s'est développée dans la grande aire des pâturages, ne sait rien d'aussi gracieux. Il ne connaît que de plaintives mélopées bourguignonnes, des rances des vaches, un refrain du Tyrol. Et tandis qu'il rentre tristement, épaule contre épaule, il attaque, en foulant l'œil perdu dans la vide, un vieux déco de laboureur, à l'aube que l'écho répercute. Le soleil qui se lève bio, il faudra manger le noyau, très fut dit dans l'orgage. S'il brenouillait, oh, que dommage! Quand je monte sur ces côtes, je sens plus léger à tout pas. La fibriole avait la verdure, feutre mes yeux et ma flairure. Ainsi se bercent ces amoureux dans l'ivresse de leur rendez-vous. Un soir, Jeannette, lassée, surmenée de désir et d'attente, demande presque suppliante à Pierre de ne pas verser son blé à la porte du moulin. À ses yeux, c'est un acte héroïque, un courage qui lui est venu de la lassitude des vaines attentes, un suprême moyen pour vaincre l'entêtement des siens par son déshonneur affirmé. Ainsi forcera-t-on le consentement des parents, et sera le père, et si le père la chasse, tous deux iront vivre en service dans un pays voisin, ou bien à la ville. Lui se fera faucheur, toucheur, maquignon, ou louera à la saison, des fois, tandis qu'elle ira en journée dans les fermes comme ouvrière pour les lessives ou les ravaudages. La jeune mère laissera orgueilleusement deviner son état. Le meunier jurera, fera les 100 000 coups, menacera, puis, peu à peu, radouci, pardonnera enfin en disant « Allons, prends-le, ton gars, misère de misère !»« Merquinade champêtre, dira-t-on en souriant. » Mais ces patients révoltés sont idéalement heureux, et longtemps après les épousailles, on les peut voir toujours à deux dans les travaux agrestes, tirant le rouleau la verse, perchés l'un et l'autre à l'heure des siestes. Souvent même, le soir, au soleil couchant, dans l'accalmie de la nature, en un moment de répit, quand on n'entend plus mourir et compter dans la campagne que le chant affaibli des pâtres, qu'on ne perçoit dans l'air, que le sifflement d'ailes des hirondelles hâtives qui rentrent au nid, ils tombent encore affamés d'amour au bras l'un de l'autre, dans une étreinte de passion farouche, vibrant de désir et de bonheur, les lèvres sur les lèvres. Leurs silhouettes n'en font qu'une, tandis que, debout, enlacés, palpitants, ils apparaissent sur le fond inondé du couchant comme l'expression d'une superbe communion de l'humaine créature devant l'éternel. De tels amours durent souvent jusqu'aux limites extrêmes de la vieillesse. La simplicité rustique les conserve et les fait indestructibles. Ainsi vis-je en pays vendômois, sur le seuil d'une des jolies grottes de Troses, creusées dans le calcaire, une paysanne chenue et voûtée, berçant sur ses genoux un petit vieillard sec et ridé dont les yeux brillaient de reconnaissance. Elle lui offrait du lait, le faisant boire avec soin, et comme j'approchais, il dit « La chère femme, voyez-vous, elle me fait bien du service, toujours avenante et dure au travail, et si jolie, ma Simone !» Et la vieille, de voix chevrotante, répétait presque amoureusement « Oui, oui, t'es un bon petit gars, t'es un bon petit gars !» Au pays de Ronsard, qui me faisait songer aux souvenirs classiques et répéter Baucis de Vintilleul, Philémon de Vincennes. Oui, c'est au grand pouls de la nature que l'amour bat au champ.